Émile Bergerat, comte de Caliban, comte féerique et rustique, les bottes de 28 kilomètres, à Octave Mirbeau. Mon cher Mirbeau, crois-tu aux rêves, je veux dire à leur sens métaphysique? Eh bien, voici un que j'ai eu la nuit dernière, et dont tu me donneras la clé sans doute, car tu en es, sinon l'objet, du moins la cause. Je venais de lire ton petit dernier, la 628-8, et comme tout le monde, je m'étais laissé entraîner par cette verve belliqueuse qui te signe grand tapin des combats de l'idée moderne. Mais sous ces espèces nouvelles de chauffeurs d'auto-philosophiques, vêtus d'ours et casquettes en scaphandrier de l'espace, tu m'inspirais une jalousie que notre vieille amitié même ne suffisait pas à calmer. Je n'endormais plus de ta 60 à l'heure. Enfin, il m'en fallait une sous peine d'en perdre mes esprits animaux, et ça, tu sais, c'est la camisole de force. Je vendis tout et j'engageai le reste. Elle valait 32 000 francs prix d'artiste. Oh, je ne la marchandais même pas. Je lus dédaigneux des contingences. Voici, dis-je au génial fabricant, bah, il me la faut vertigineuse. Mirabeau m'embête. Est-elle vertigineuse? Garantie pour course à la mort, fut la réponse. Oh, c'est pas assez. Puis-je dedans monter au Brocken comme Faust en 10 minutes pendant une vie de Valpurgis? Oui, avec ou sans Mestophilès au choix. Alors top donc, et je partis. Bon voyage, poète, me cria-t-il. Et c'était le mot juste, mais c'était déjà au diable sans savoir où j'allais, bien entendu. On va. Le spasme est là, c'est-à-dire dire d'experts, quand ils avouent. Je me menais donc, encore que le train ou les poules l'échappent, et je portais à peine de l'enceinte, quand d'un coup d'œil, j'embrassais, comme au vol, la silhouette fugitive d'un homme gigantesque qui, sur le banc de l'octroi, cirait ses bottes. Plus banal, assurément, si cet homme ne m'eût lancé un regard oblique que l'érubescence de ses paupières enflammées me fit attribuer à mauvais présage. Il me parut aussi que les bottes qu'il cirait étaient énormes, antiques, et assez pareilles à celles des postillons de Berlin qui, maintenus par leur poids en équilibre, dormaient à cheval et debout d'un relais de poste à l'autre. Et comme la route s'ouvrait, large, aérienne, aimantée, j'accélérais ma vertigineuse. Or, je n'avais dévoré que 12 kilomètres environ, quand l'homme aux bottes passa, jambes ouvertes, par-dessus ma tête, en l'air, et s'effaça sous l'horizon. Mais avais-je déjà la fièvre? Cette fièvre propre au sport de la vitesse. Non, mon pouls dormait la normale. Alors quel était ce gymnasiarque qui bondissait ainsi léger dans pareille botte sur une voiture à demi déchaînée? Un nuage caricatural, sans doute, formé et emporté par le vent. Mais, fait étrange, à 16 kilomètres plus outre, il se dressait, perché sur une borne militaire, d'où, pour inspecter la profondeur d'un bois où s'enfonçait la route, il dardait son regard rouge. Impossible de douter au reniflement de ses narines pileuses comme à la bave de sa langue pendante, qu'il ne flaira quelque proie dans la forêt. Et pour l'atteindre, je multipliais mes voltes. Il ouvrit le compas de ses guibolles et, pst, disparut par-delà les cimes. Plein de foi dans la voiture invincible qui me portait comme Élie son manteau prophétique, je la précipitais dans l'ombre verte des chênes à la poursuite de l'homme aux bottes ailées. « Oh, il ne sera pas dit, me jurais-je, que la science... Oh, et quelle science, mon cher Octave, celle même qui réduit la distance à une hypothèse, Le cédera, je ne sais quelle vision fantomatique dont le mirage ne relève que du conte. Nous allons voir si les bottes, de simples bottes anarchaïques, l'emportent sur une machine de 32 000 francs, garantie méphistophélesque et signée d'un mécanicien auprès duquel Archimède de Vaucanson ne sont que des constructeurs de polichinelles. Et je la lançai à une telle allure qu'elle faillit dans une clairière écraser un petit garçon tenant deux fillettes par la main et qui, d'après ma notion des choses, y cueillait des violettes pour la fête de la mère Loire. Comme je m'étais arrêté net, ainsi que l'on s'arrête quand on débute, l'enfant me pria de le prendre, lui et ses sœurs, dans la vertigineuse, pour le sauver d'un méchant homme qui voulait les boulotter tout cru et sans sel ni poivre, riait-il. Je les empilai donc en un petit tas au fond de la voiture et je repartis à 70 à l'heure. Le puérophage m'attendait à l'oreille du bois. « Humph, humph !» reclaqua-t-il. « Ça sent la chèvrege dans ta roulante !» Il fallait fuir. Au bas d'une pas avec les ogres. La course commença, course terrible, qui dans mon songe mettait aux prises l'idéal et le réel, ou, si tu préfères, le vieux jeu avec le nouveau. N'oublie pas que mon fabricant m'avait jeté dûment l'injure, trop méritée de poète. Quel que fût le développement de la vitesse sans limite de ma vertigineuse voiture de course à la mort, elle était inférieure à celle où, grâce à ses bottes, le polyphème des gosses pouvait parvenir puisqu'il n'avait qu'à écarter les genoux pour faire 7 lieues d'un empan. J'étais donc sûr de succomber, comme la raison succombe à la folie, lorsque le garçonnet me fit observer que cette mesure de 28 kilomètres était fatale et que l'ennemi ne pouvait ni l'augmenter ni la réduire. C'est 7 lieues toujours et ni plus ni moins. Donc tu n'as tantôt qu'à ralentir et tantôt qu'à activer la machine pour rester en deçà ou en delà du pas magique. Ainsi parla le malicieux petit Pousset, et je crus à l'ouïr entendre le jeune David honner la trajectoire de sa fronde au front de Goliath. Et voici qu'à son conseil, la main sur une roue docile et sensible comme un ressort de montre, je précédais ou suivais, l'esquivant toujours, le polyphème retombant une lieue trop près ou trop loin. Nous arrivions ainsi en cette chasse fantastique à je ne sais quelle région dénudée et sablonneuse, semée d'ajoncs fleuris au travers desquels la mer bleuissait. À son bruit familier à mes oreilles et comparable à une grande toile qu'on déchire, je jugeais que nous n'étions qu'à 2 lieues environ de son gouffre, et j'allais serrer les freins de la vertigineuse pour ne pas échoir, quand l'enfant me cria « Va donc, lâche tout, il est perdu !» Et l'ogre imbécile, en effet, de son enjambée géométrique, s'écarquilla et s'en alla tomber dans les eaux jaillissantes. Notre élan, d'ailleurs, à nous-mêmes, était tel que nous ne stoppâmes que dans les premiers flots. Eh bien, croirais-tu, mon cher Mirbeau, que notre coquin de puérophage nageait comme Neptune lui-même? Pour aborder un rocher formant îlot, où il pensait se tirer d'affaire, il avait retiré ses bottes qui, toutes flottantes, vinrent échouer sur le rivage. Mais en vérité, c'est un étrange rêve. Mon petit homme pousse, fou de joie de voir ainsi onduler les bottes comme des algues déracinées, s'était élancé de la voiture et, suivi de ses deux sœurettes, qui n'avaient pas lâché leur bouquet de violettes, il courut les repêcher sur la grève. Puis il les chaussa. Je te dis qu'elles étaient immenses, mais elles s'étrécirent à la mesure de ses pieds d'enfant. Polyphème hurlait sur son îlot. Et lorsque les bottes furent chaussées, Le gai petit voleur prit sous chaque bras l'une et l'autre des bouquetières, la brune à gauche, la blonde à droite. Il fit un pas de 28 kilomètres et s'enfuit, l'ingrat, chez la mère Loie. Je mis, comme bien tu penses, pour le rattraper sur les chemins, la vertigineuse à l'allure de la course à la mort. Mais je ne sais pas où elle demeure, hélas, la mère Loie. Et je me suis réveillé. Es-tu ferré en orinomancie? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce songe-là? Bien, peut-être ceci, que les poètes sont pour quelque chose dans l'invention du spasme de la vitesse, et que le bon Perrault réclame. Fais-tu 7 lieues à la seconde sur ta 628-8? Bien, bien, il y a des bottes qui les font, de vieilles bottes, mon cher Octave.